ce soir au micro de Radio Calade.
Palestine ici, Palestine là-bas. Ce soir au micro de Radio Calade, Mabrouk Lazrek, comité. Comité caladois, action, solidarité.
Bernard Huernet, émission civile, campagne civile internationale pour la
protection
du peuple palestinien. On revient un tout petit peu en arrière. On a eu la chance d'avoir aux 400 coups au mois d'avril, début avril, la présentation d'un film qui s'appelait Samo Hérode. Un très beau film, très prenant, qui je crois n'a laissé indifférent personne, hein, parce que on voyait cette famille qui finalement, on aurait dit qu'elle disparaissait, tout le monde serait parti, ça aurait été presque dans le sens, quoi. Mmh. Parce qu'il y avait énormément de personnes de la famille, des oncles, des maris qui sont morts, d'autres qui sont prisonniers. La famille s'étiolait, voilà. Et j'ai trouvé notamment une femme, la mère, qui avait une grande résilience et qui se faisait du souci, à juste titre d'ailleurs, pour ses enfants, disant la violence, le monde violent dans lequel nous vivons, comment nos enfants ne vont-ils pas réagir en étant eux-mêmes violents, quoi. Et j'ai trouvé ce film vraiment prenant pour ça.
Ah bon, là, on a pu le voir à la fin du film, puisque il était convenu qu'après le film, il y ait un débat avec le public. Et c'est vrai qu'après avoir vu le film, on est resté vraiment touché.
Un peu sans voix.
Et puis, ouais, comme tu dis, sans voix, c'est vrai que le public, pour aller le chercher, eux, ils ont été très, 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 très touchés et très affectés. Puisque le film en lui-même racontait l'histoire d'une famille meurtrie, et en même temps les membres de cette même famille qui ont été tués pendant les massacres de 2014, puisque dans le
plan
film
durci.
Plan durci, dans Plan durci c'est 2009 et 2014 c'était le... Alors oui, tout à fait, tu as raison, puisque c'est en 2009 où cette famille, un grand nombre de cette famille meurt sous les bombes. Et justement, le réalisateur, qui est italien, lui, justement, il fait un focus sur cette famille. Qu'est-ce qu'elle a vécu, et en même temps, qu'est-ce qu'elle traversait comme douleur et comme...
Et en parallèle, donc, il y avait quand même une sorte d'espoir là, dans ce film, puisque c'était un moment de mariage. Hein, donc il y avait cette projection là, et puis la plantation d'olivier aussi, hein, donc on se projetait aussi dans l'avenir, mais bon, l'avenir restait quand même très peint, très incertain. Et alors pourquoi on revient un peu sur ce film? D'abord parce qu'il était beau et puis qu'il faut en parler, mais d'autre part parce que il y a une question dans le public, et notamment à la suite de ce film on est un peu resté sans voix, moi je suis resté sans voix en tout cas, à savoir ça sert à quoi qu'on se batte pour les Palestiniens aujourd'hui. Puisqu'on a l'impression que, et puis on va encore en parler tout à l'heure suite à l'élection de Netanyahou, à quoi ça sert que l'on fasse tout ce qu'on fait quand on voit l'ambassade des États-Unis a été déplacée à Jérusalem, quand on voit les difficultés qu'ont les musulmans pour accéder maintenant et encore certainement plus, dans l'avenir encore plus, à l'esplanade des mosquées. Quand on voit, on va reparler des prisonniers aussi, quand on voit tout ce qui se développe en Israël, l'écart très très important qu'il y a, la distorsion qu'il y a entre les Palestiniens et les Israéliens aujourd'hui, ça fait des années qu'on se bat, voilà, et 60 ans, 70 ans qu'eux se battent, et puis pour un certain nombre d'entre nous, c'est peut-être des 20 ou 30 ou 40 ans qu'on fait des démarches dans ce sens-là, en essayant d'agréger le public, comme ça, à cette cause-là, qui est une cause très, pour laquelle on est motivé. Et on voit les choses, au contraire, on a l'impression que les choses elles se dégradent, et puis qu'on n'est plus maître de la situation, hein, même les Palestiniens eux-mêmes sont en difficulté à maîtriser la situation. Alors, moi je crois que les Palestiniens, on leur doit ça, ils ont arrêté la lutte armée, hein, voilà, les Fedaïns ont plus ou moins posé les armes, hein, après 83, mais n'empêche que en se battant sur le droit, sur tout ce qui était, ce qui avait été décidé à un moment donné, une époque, hein, au moment du partage. On peut pas laisser tomber ça, quoi. Voilà, il faut, on est, même si c'est difficile, même si on en prend plein la figure parfois, on peut pas laisser tomber les Palestiniens parce que ils ont le droit de vivre sur cette terre. Voilà.
Alors pour revenir sur le film, puisque il parlait d'une famille meurtrie, mais en même temps. La situation à Gaza, et on l'a souvent évoqué dans ces émissions, qui est une situation catastrophique à tous les niveaux, sanitaire, humanitaire, social, économique, politique, qui aujourd'hui, ce peuple, qui est à hauteur de plus d'un million et demi d'habitants, dans une superficie territoriale qui est très très restreinte, aujourd'hui, et on l'a vu à travers le film, vivent sous les décombres, des maisons détruites, des plantations dévastées, pareil, détruites, une pêche qui est réduite à travers un blocus imposé par l'armée israélienne, aussi bien une agriculture aujourd'hui pareil qui est neutralisée. Et à travers toutes ces démonstrations qu'on a pu voir dans le film, la question s'est posée. C'est vrai que parce que ces dernières années, et ça fait très longtemps, où on informe, on sensibilise sur la question de la Palestine, et en même temps, informer le public de ce qui s'y passe à travers plusieurs supports. Ça peut être le film, comme ça peut être d'autres supports, mais à travers ce film, on a pu voir une réalité. Et la question qui revient à chaque fois, c'est celle-là. Oui, après avoir fait le constat, après avoir vu, après avoir... Qu'est-ce qu'on fait ? Et la question a le mérite d'être posée, puisque justement, lors de ce débat, un participant a posé la question, et cette question, on l'a souvent fait l'objet d'une réflexion. Mais aujourd'hui, oui, il y a des pistes qui sont élaborées par la société civile palestinienne, qui nous demande justement de relayer l'appel. Par exemple, j'ai l'exemple en tête de l'appel du BDS, mais pas que. C'est aussi parler de ce qui se passe aussi là-bas en Palestine. Et tu as bien fait de le souligner, on ne peut pas les laisser tomber. Et c'est le cas à travers des émissions de radio, c'est le cas aussi à travers des festivals, comme on a pu le voir dans le cadre de la projection de ce film, du festival palestinien, parce que c'est aussi ce peuple palestinien, ce n'est pas un peuple qui est, comme on a voulu nous faire croire que, quand les Juifs ou les Israéliens sont arrivés en Palestine, il n'y avait pas de peuple, il y avait une terre sans peuple. Non, c'est un peuple qui a une culture, qui avait une agriculture, qui a une histoire, qui a une civilisation. Et ça, aujourd'hui, de la part des gens de la société civile palestinienne, mais aussi des gens qui sont solidaires avec le peuple palestinien, c'est aussi de relayer et de promouvoir cette culture qui est la culture palestinienne à travers tous les niveaux.
Et j'ajouterais simplement, si on veut finir sur le sujet, à quoi on sert quand on intervient à la radio, quand on intervient à Radio Calade ou ailleurs. Ce qui se passe en Palestine, c'est grave. Et les gens qui nous écoutent ne pourront pas dire plus tard, on ne savait pas. Mmh. Voilà. Alors, à la fois pour le citoyen lambda, mais aussi pour les hommes politiques, hein, les gens qui nous gouvernent. Ne peuvent pas ignorer ce qui se passe là-bas. Mmh. Et donc, ils sont aussi responsables de ce qui se passe, en se taisant.
Tout à fait. Comme tu dis, il y a aujourd'hui une complicité énorme de la part des représentants politiques, et entre autres, aujourd'hui, comme les États-Unis, comme certains pays européens, sont du côté de celui qui opprime, sont du côté de celui qui tue, pour dire les choses comme elles sont. Et aujourd'hui, il appartient à toute personne qui est sensible à cette question, à cette cause, de justement d'œuvrer dans le sens où les outils, les supports sont là pour justement faire en sorte que cette question ne soit pas oubliée et justement soit mise au devant de la scène pour que les politiques, à un moment, s'aperçoivent qu'il faut faire quelque chose et pas laisser ce peuple en train de se faire massacrer et en train de mourir à petit feu.
Voilà. Hein, et c'est suite aux élections en Israël. Cette semaine et la semaine dernière, il y a quand même des gens qui ont pris position fermement, hein, sur l'État l'état de l'État israélien, hein, en disant que c'était vraiment un état d'apartheid. Hein. J'en veux juste pour preuve ce qu'a écrit plutôt Jean-Marc Ayrault et puis Hubert Védrine, hein, que c'était un état d'apartheid, et puis la prise de position aussi forte de l'ex-diplomate ambassadeur de France aux États-Unis, disant lui aussi, donc il s'appelle, Gérard Araou, et disant que Israël était un état d'apartheid. Donc voilà, peut-être qu'on fait des petits pas, mais ces petits pas, il faut qu'on les accumule pour nous permettre d'avancer.
Alors peut-être pour revenir sur la marche. La manifestation qui a eu à Lyon le samedi 30 mars. Alors, il y a eu un appel du collectif 69 Palestine, qui regroupe plusieurs associations, plusieurs fédérations. Donc l'appel, c'était un appel à manifester. Et dans cet appel, c'était aussi pour commémorer la journée de la Terre, qui est célébrée par les Palestiniens tous les ans le 30 mars. Pardon. Tous les ans le 30 mars, puisque le 30 mars 76, c'est de nombreux Palestiniens qui se sont fait massacrer par l'armée israélienne. Donc, tous les ans le 30 mars 76, il y a une commémoration, une manifestation en Palestine, mais aussi pour ceux qui sont solidaires avec la question palestinienne. Mais pas que ça, puisque le 30 mars aussi, le début de la marche du retour qui a lieu tous les vendredis à Gaza. Et là, on en est à plus d'un an où tous les vendredis, les Gazaouis se rassemblent pour marcher en direction de la frontière ou ce qui sépare Israël de la bande de Gaza. Et quand on regarde le bilan des personnes qui ont été tuées par l'armée israélienne, aujourd'hui, on totalise plus de 300 personnes, hommes, femmes, enfants, des milliers de blessés, des gens qui sont mutilés, qui ont été blessés, qui aujourd'hui ne peuvent plus marcher, peuvent plus se servir de leurs membres. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui de 52 marches qui ont eu lieu, plus de 52 marches qui ont eu lieu depuis le 30 mars 2018, et qui est aujourd'hui aussi un élément déterminant pour revendiquer le retour des Palestiniens sur leur terre. Puisqu'il faut savoir que le nombre de réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza est le plus important quand on comptabilise les réfugiés qui vivent en dehors de la Palestine. Donc cette manifestation a eu lieu à Lyon le 30 mars 2019. Elle a démarré à Jean Basset et elle a terminé au pont de la Guillotière. Il faut savoir qu'on était à peu près entre 300 et 400 personnes. On a fait beaucoup de bruit, on a scandé les slogans. Et voilà, l'appel a été relayé à travers les réseaux sociaux et que c'était pas spécifique à Lyon, mais dans toute la France. Ce moment a été commémoré à travers des manifestations et à travers des rassemblements.
La marche du retour, 300 Palestiniens tués, c'est sur 50 manifestations, ça fait 6 par semaine quand même. C'est quelque chose d'énorme. Mais moi, je ne vais pas faire un calcul morbide sur les blessés, mais voilà, c'est énormément de morts. Moi, 6 morts par semaine, ça fait, moi, je trouve, c'est beaucoup. Et plus tous les blessés, c'est quelque chose de démesuré. Surtout qu'ils ne peuvent rien faire, les Palestiniens ne peuvent pas sortir à RS. Au point de passage, c'est même pas la peine d'y penser.
Tout à fait. Mais ce qu'on peut saluer au passage, c'est que ce qu'on retrouve chez ce peuple, c'est qu'il y a le mot espoir revient toujours et à chaque fois. Et cette détermination, c'est que cette marche qui aurait pu faire l'objet de d'une ou deux marches ou trois, mais non. Ça fait plus d'un an que l'initiative continue et puis il persévère. Et puis je pense que c'est quelque chose de très 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 bien.
Alors un autre sujet, puisque là on n'arrive pas à avril. Début avril, il y avait les élections législatives en Israël. C'était vraiment un moment important. Puisqu'il y avait donc Netanyahou s'est représenté et a été élu. Alors, pas tout seul, mais avec une grosse partie de la droite et l'extrême droite. C'est ce qui était un peu plus. Ça a posé des problèmes encore plus importants, puisqu'il va avoir une aile droite très, très forte, puisqu'ils vont participer aux lois, aux décisions importantes à prendre. Netanyahou reconduit une nouvelle fois, c'est l'ami de Trump, Netanyahou. Et donc on va s'apercevoir qu'il y a donc le plan de paix, le plan de paix qui est déjà en gestation aux États-Unis, dont Trump n'a pas encore voulu parler avant les élections. Ce plan, on commence à comprendre et on le voit se dessiner au fur et à mesure. Et tout à l'heure, je parlais de la grande asymétrie qu'il y avait entre les Israéliens et les Palestiniens. Aujourd'hui, cette asymétrie, elle va encore augmenter, puisque on parle à la limite, on va même plus parler de développement raisonné des colonies. Semble-t-il, dans ce projet, un développement tout azimut des colonies, sans autre forme de procès. Donc, c'est un élément, ça.
Ouais, alors, pour revenir, comme tu disais, à l'élection de Netanyahou, où il l'a remporté, je dirais pas haut la main, mais qu'il l'a remporté, mais c'était un peu difficile pour lui, puisqu'il était accusé de plusieurs faits de corruption. Donc ça pouvait le déstabiliser. Mais comme le monsieur est très très, est très très malin, et puis comme on dit, c'est un renard politique, il a su jouer sur plusieurs tableaux, entre autres.
La sécurité.
Il a conforté son électorat, et il a même parlé d'annexer la Cisjordanie. Ça voudrait dire ce qui restait comme espace qui pouvait justement... où il gravitait d'année en année de ce qui restait de la part des Palestiniens. Aujourd'hui, il y allait franco, et il confortait, comme je disais, son électorat en parlant aujourd'hui d'annexion. Et il allait dans le sens de son ami Trump, puisque lui, il lui donnait l'aval que le Golan était bien israélien.
Oui.
Chose qui a été contestée par beaucoup de pays, entre autres l'Union européenne, puisque la représentante des affaires étrangères, alors j'ai pas son nom en tête, elle a été à l'encontre des déclarations de Trump. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces initiatives, quand on parle de l'annexion de la Cisjordanie, quand on parle du plateau du Golan, et sachant que tout ça c'est encadré par des résolutions comme quoi il y a une violation du droit international par l'État hébreu, par Israël, et qu'aujourd'hui il en va de la dualité du couple Benjamin Netanyahou et Donald Trump, de vouloir tout s'accaparer. La petite donne qui change aujourd'hui, c'est que il y a des pays arabes qui vont dans le sens de Donald Trump, entre autres l'Arabie Saoudite, Saoudite, oui, les Émirats arabes et l'Égypte. Donc tout ça, il y a ce qu'ils appellent le plan de paix, qui irait un peu plus loin et qui serait vachement avantageux pour les Israéliens de saboter carrément et de voler la part des Palestiniens.
Voilà. Donc dans ce plan de paix, manifestement. On n'entend plus parler de solution à deux États, et on n'entend même plus parler d'un État palestinien indépendant. L'étau se resserre sur les Palestiniens. On n'a pas entendu parler de Gaza, mais je pense que Gaza, on va bien le laisser de côté, on va pas mettre les pieds là-bas, ce sera plus simple. Par contre, la Cisjordanie, donc annexion tous azimuts de la Cisjordanie, c'est déjà un gruyère, mais ça sera... ils vont encore plus resserrer les trous dans le gruyère, puisque... Ils vont développer les colonies. Et puis aussi, donc, une partie de Jérusalem-Est qui abonderait aux Palestiniens, mais pas, a priori pas encore, l'esplanade des mosquées.
Alors, alors, quand tu parles de Jérusalem, où ça coince avec les partenaires qui voudraient s'engager dans ce processus ? C'est justement cette question. Et entre autres, le différend qu'il y a aujourd'hui entre le père et le fils concernant cette question, c'est Jérusalem. Et là, justement, ça reste, la question reste suspendue par rapport à cette question. Mais le père Ben Salman, il émet un avis défavorable. Donc c'est là, parce que tout ce plan va être financé. Donc ils veulent trouver les donateurs et les donateurs et les garants. Et ces garants, aujourd'hui, il y a certaines conditions où, justement, c'est en pleine négociation. Mais pour revenir sur le plan qui est proposé par l'administration américaine, il y a ces choses-là, mais il y a encore un deal qui voudrait être passé avec l'autorité palestinienne. Mais l'autorité palestinienne, à savoir que entre l'autorité palestinienne et l'administration américaine, aujourd'hui, ça ne va pas dans le bon sens comme il y a eu dans le passé quand il y avait l'émissaire de Bill Clinton ou celui de George Bush. Aujourd'hui, les relations sont tendues, carrément, elles sont inexistantes. Et la peur pour l'administration américaine que l'autorité palestinienne commence à se tourner vers un autre... On parle de Russes, on parle de Chinois, pourrait compliquer les choses.
Finance, oui.
Et la position des Israéliens concernant ces dernières déclarations à travers l'annexion de la Cisjordanie, l'aval des Américains concernant le plateau du Golan, pourrait justement compliquer les choses. Et on le voit aussi à travers la politique intérieure du gouvernement israélien, puisque... Avant même le vote de l'État-nation en juillet, il y avait plein de faits qui nous disaient que Israël est un État d'apartheid. Ça a été confirmé avec cette loi État-nation et ça le confirme encore aujourd'hui, puisqu'on a des déclarations d'anciens hommes qui résidaient ou qui travaillaient sur place, qui aujourd'hui nous le dit clairement, entre autres les noms que tu as évoqués, Hubert Védrine et entre autres un ancien ambassadeur des États-Unis et qui était aussi ambassadeur en Israël, qui nous dit aujourd'hui Israël. Israël, clairement, aujourd'hui, est un état d'apartheid.
Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, donc, on a parlé de le déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Jérusalem reconnue comme une capitale d'Israël par Donald Trump. Et puis, la contribution à l'ONU des États-Unis de 350 ou 360 millions, je ne sais plus, n'abondera plus, ne sera plus abondée par les États-Unis. Donc voilà, il se retire de l'aide aux Palestiniens. Alors, la difficulté, alors le plan B, est-ce qu'il y a un plan B pour les Palestiniens, par exemple?
Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment des réactions un peu timides. Moi, j'ai lu dernièrement que la Ligue arabe, ils se sont réunis dernièrement et qu'ils allaient apporter une aide de 100 millions de dollars à la Palestine. C'est vraiment quelque chose de dérisoire. Plus qu'une aide financière, c'est une aide politique. Ils ont besoin. Et sachant qu'aujourd'hui, la Ligue arabe n'est représentée que par elle-même, elle n'est pas le reflet et puis la représentation du peuple ou des peuples, et qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu dans la gesticulation politique et que les véritables résolutions, des véritables solutions pour la question palestinienne n'est pas encore au rendez-vous.
Ouais, parce que 360 millions de moins versés par les États-Unis, qui auraient pu être versés par les États-Unis, plus la TVA, on en parlait la dernière fois, je crois, la TVA des produits palestiniens qui auraient dû être versés au gouvernement, donc enfin au gouvernement, à l'autorité palestinienne, encore 122 millions, et dont Mahmoud Abbas manifestement ne veut plus entendre parler parce qu'il veut pas faire l'aumône. Donc Netanyahou avait supprimé bloqué ces 122 millions en disant que ça servait juste à financer à aider les prisonniers palestiniens. Voilà, en gros, c'est à peu près ça.
Donc il faut savoir que aussi bien d'un point de vue politique, Trump a fait énormément de dégâts, mais aussi la contribution financière et américaine qui était par le passé, puisque c'était aussi la façon de se donner bonne conscience pour dire oui, on est là, on est des partenaires de paix. Non, mais il y a rien de tout ça. Mais c'est vrai qu'en plus de l'arrivée de Trump, la contribution financière aujourd'hui, elle est inexistante. Ouais. Et elle fait du mal, quoi qu'on en veut, aux Palestiniens et à la Palestine.
Et l'Europe est très divisée sur le sujet.
Est très divisé. Hein,
puisque on voit la dérive droitière d'Israël, mais il y a personne qui vraiment remue, bouge, veut bouger. Alors il y a des tout ce qui est condamnation traditionnelle, ouais, hein, de cette dérive, mais
ce qui manque à l'Europe, ce qui manque à l'Europe, c'est vraiment un charisme fort, un charisme politique. Oui, ça va, faut aller au-delà des condamnations. Et même aujourd'hui, quand on voit qu'il y a une partie des pays européens qui vont dans l'alignement de la politique de Netanyahou, on voit le Hongrois, comme il s'appelle, Orban. Il y a aussi le président brésilien, pour aller sur un autre continent, Bolsonaro. Et on a aussi certains pays de l'Est qui n'y vont pas de main morte. Donc aujourd'hui, il y a une partie des pays européens qui sont dans l'alignement de la politique israélienne. Mais on a aussi des pays qui aujourd'hui, moi qui me paraît qu'ils sont un peu mou sur la question, et puis on attend plus que des condamnations verbales en disant non, il faut vraiment amener des mesures. Et pour revenir à ce que j'avais écouté il y a un mois de ça dans une émission, il disait quand on regarde quand on va sur le site de l'Union européenne et on voit les pays qui subissent un embargo de la part de l'Union européenne, parce qu'il y a une relation politique qui n'est pas bonne. Le seul pays qui fait exception, c'est Israël. Pourtant, Israël commet des atrocités, mais elle n'est pas dérangée du tout par l'Union européenne. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à faire au niveau des pays européens, et les élections européennes arrivent. Je pense que là, il y aura peut-être un petit rappel à leur faire concernant la question palestinienne.
Oui, donc en fait, les ministres, il y a 37 ministres des Affaires étrangères, donc de l'Europe, qui ont adressé une lettre à Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne.
C'est le nom qui m'échappait tout à l'heure. Voilà.
Mais voilà, ils l'ont fait, voilà. C'est les condamnations traditionnelles, la colonisation.
Quand ils font ce genre de condamnation, voilà, ils rappellent le droit. Il rappelle le droit, et le droit international, et les résolutions qu'aujourd'hui, à ce jour, Israël ne respecte pas.
Voilà. Comme c'était le 17 avril, la journée des prisonniers, en quelques secondes, il faut quand même qu'on en parle un peu de ces prisonniers, parce qu'ils sont, très très peu de familles qui n'ont pas qu'il y a très peu de familles qui n'ont pas de prisonniers dans leur famille. Voilà, je suis arrivé. Avec toujours des rétentions administratives, des jugements qui n'ont jamais lieu, des enfants comme des femmes qui sont retenus prisonniers. On ne va pas aller plus loin aujourd'hui puisque c'est la fin de l'émission.
Ouais, c'était bien de rappeler cette date, le 17 avril. Alors il faut savoir que le 17 avril, c'était la journée des prisonniers. Et dans le cadre de la journée contre la société AXA, puisque AXA est bien impliqué dans les banques, le partenariat qu'il a avec les banques israéliennes et avec la société d'armement, il y a des actions qui ont été menées en France. Et que justement, c'était aussi pour rappeler la journée des prisonniers qui a lieu tous les ans le 17 avril. De chaque année. Voilà.
Bonsoir à tous, merci à vous.
Bonsoir à tous, et puis à une prochaine pour parler de la Palestine, bien sûr.